Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est adapter une œuvre en bande dessinée. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir au cinéma, les romans adaptés, etc. Mais il y a des questions particulières à l'adaptation en bande dessinée. On reçoit pour cela un romancier scénariste de bande dessinée, Thomas Day.
Bonjour.
Son comparse sur leur bouquin commun qui est juste un peu de centre, Aurélien Polis.
Bonjour.
Dessinateur. Eric Enino, qui est adapté et dessiné La Horde du Contrevent. Vous avez pu voir l'expo pour les plus curieux de juste à côté. Valérie Mangin.
Bonjour.
Scénariste de bande dessinée qui a adapté surtout des grands mythes, mais aussi un roman de SF. Et Julien Bondel.
Et bonjour.
Voilà, qui est ici pour le fait de guerre de l'adaptation d'Ellery principalement. Je vais vous demander, on va faire quelques questions, vous allez répondre les uns après les autres, mais n'hésitez pas à vous reposer des questions. Est-ce que vous êtes à l'initiative de l'adaptation qui vous a amené sur ce plateau ?
Oui, dans mon cas, oui. Y a des gens qui me posent une question assez étrange en dédicace, ils me demandent si j'ai lu le roman avant de faire la BD. Et jusqu'à ce que je comprenne, en fait, qu'il me demande si c'est un travail de commande, en fait. Oui, donc moi, j'ai découvert le roman par un ami et j'ai décidé ensuite d'en faire une bande dessinée. C'était ça, la question ?
C'était oui. Tout à fait
c'était
ça.
Tout à fait.
C'est marrant que tu dises si les gens te demandent si tu l'as lu. Moi, je vais parler d'Elric, dont je ne suis pas à l'initiative, et j'étais ravi qu'on me le propose. Mais une des adaptations d'Elric qu'il y a eu avant nous, une des grandes adaptations, c'est celle de Ruyet, notamment, où il n'avait pas lu les romans. En fait. Il s'est rendu compte après qu'il connaissait le personnage, le mythe. Il ne parlait pas vraiment un mot d'anglais, monsieur de Ruyet. Et il a fait cette adaptation sans avoir vraiment lu en détail les choses. Quoi. Et ça a donné quand même quelque chose d'assez fascinant. Moi, je ne suis pas à l'origine du projet Elric, je le dois à l'ami Didier Poli, qui travaillait chez Glénat et qui a, au détour d'une conversation, dit on se ferait bien un Elric ou un Conan, un gros truc de la fantasy à la française, en studio, sans concession, bien proche de l'œuvre. L'éditeur a fait son travail, a contacté Michael Moorcock, ses agents, proposer l'idée d'une adaptation BD un peu différente de ce qui avait été fait en comics. Et ils ont cherché un scénariste qui venait du jeu de rôle pour avoir une approche dans l'univers, dans les textes originaux, une approche un peu de geek. Et je suis rentré sur ce projet de cette façon-là. Ouais. Mais moi, je l'ai lu, le roman.
Ah, et toi aussi ?
Moi, je vais répondre de oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs adaptations. J'ai fait tout d'abord l'adaptation de Rayon pour Siddhar de Stéphane Vull. Et là, bah, je n'avais pas lu avant. En fait, je ne suis pas l'initiative non plus. C'est-à-dire que j'avais lu Vull, j'avais lu Niourk, j'avais lu Homme en série qui m'avait beaucoup plu. Et un jour, dans les couloirs du Festival d'Angoulême, j'ai croisé Olivier Vatine qui m'a demandé si ça ne m'intéresserait pas d'adapter un roman de Stéphane Vull. Alors, sur le coup, j'aimais beaucoup Olivier, j'aimais beaucoup son travail, j'aimais beaucoup aussi Stéphane Vull parce que j'en avais lu. Je me suis dit oui, pourquoi pas, allons-y. Et ça s'est arrêté là, on s'est recontacté plusieurs mois après. Je me suis rendu compte que les romans que j'avais beaucoup aimés de Vull étaient déjà adaptés par d'autres personnes, en fait. Et bon, je me suis dit que ce serait trop bête de renoncer pour ces raisons-là, et donc j'en ai piqué un au hasard en me disant que j'allais faire confiance à Vull finalement. Et Rayon pour Siddhar était libre, donc j'ai choisi celui-là, oui, sans l'avoir lu. Pour mon autre adaptation, au contraire, c'était un choix très personnel à la base, puisque j'ai adapté l'Énéide de Virgile en science-fiction, en BD de science-fiction, donc une double adaptation. Là, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu, je suis une historienne de formation et je suis une amoureuse de la Rome antique. Donc adapter Virgile, pour moi, c'était vraiment un choix coup de cœur extrêmement important. Et je suis par ailleurs aussi une grande fan de science-fiction et donc une autrice de BD. Donc j'ai un peu mixé mes trois passions dans cette adaptation.
Mais alors donc moi, j'ai cassé l'ambiance parce que notre BD, c'est un scénario original et donc c'est pas du tout une adaptation.
Voilà. Les fameuses conférences utopiales où il y a les invités surprises qui sont là pour représenter la surprise.
Donc pour la petite histoire, c'était quand j'ai demandé à Aurélien s'il voulait faire de la bande dessinée, on était parti sur, en effet, un projet d'adaptation d'un grand classique de la littérature américaine fantastique. 5 ans plus tard, l'éditeur chez Glénat essaye toujours d'avoir les droits. Et entre temps, ben, on a fait juste un peu de cendre et on s'est lancé sur un autre projet de 200 planches. Donc peut-être dans 5 ans, je pourrais revenir ici pour parler d'une adaptation, mais là, non.
C'est à peu près la même chose, effectivement. Là, pour le coup, je vois pas trop ce qu'on va pouvoir apporter au débat, mais
vous allez devoir vous adapter.
De rebondir sur ce que vous allez dire. Ouais.
Va falloir s'adapter. Ouais. Avez-vous rencontré l'auteur ? Il s'est mêlé de l'adaptation ou pas ? Il a été franchement casse-couille, complètement, au contraire, désintéressé par le projet, voilà.
Je passe. Non, je déconne. Oui, donc, en fait, moi, l'idée du projet, ça a commencé vraiment... il a fallu rencontrer effectivement l'auteur, pour lui poser la question, savoir s'il était d'accord pour faire une adaptation de son roman. Donc, il se trouve qu'Alain était d'accord pour une adaptation, mais pas avec moi. Donc, il a fallu le convaincre, en fait. Bon, je dis ça un peu en plaisantant, mais il avait regardé les planches de 13 Mysteries. Et il me disait, mais ça va pas du tout aller ton dessin sur la Horde du Contrevent. Je dis, oui, évidemment, si tu te bases sur les planches du 13 pour imaginer la Horde du Contrevent, ça va être un peu compliqué. Et il avait un argument assez fort, en fait. Il me disait, la Horde, c'est un livre sur l'ouvert. Voilà. Et toi, ton dessin, il est très, très fermé, très cerné. Et c'est justement à une époque où moi, j'avais envie de m'échapper de ce dessin qui était un peu timide, un peu timoré encore, où en fait j'avais besoin de beaucoup crayonner avant d'ancrer, ce qui faisait que l'ancrage n'était pas très spontané, mais plutôt un recopiage en fait du crayonné, ce qui forcément tue un peu la vie du trait. Et donc moi j'ai dit à Alain, mais en fait justement moi j'ai vraiment envie de sortir de ça et d'aller trouver plus d'énergie, plus de vie dans mon trait. Et ce qui était d'ailleurs aussi pour moi l'objectif du travail avec Mathieu Lauffray, dont j'ai été l'assistant sur le tome 4 de Prophète, où je faisais les décors essentiellement, parce que voilà, tracer des lignes de perspective, il avait pas très envie.
Et j'ai fait des décors pour lui il y a longtemps.
Ah aussi. Oui, d'accord. Bon, voilà. Et c'est ce que j'avais dit à Mathieu quand il m'a dit mais en fait pourquoi ça t'intéresse d'être mon assistant, enfin, tu viens de faire un 13 etc, t'as peut-être mieux à faire. Je dis non, mais en fait moi vraiment ça m'intéresse parce que toute l'énergie, toute la puissance qu'il y a dans ton ancrage et dans ton trait, moi j'ai envie de comprendre en fait. Et, et ça m'a vraiment permis en travaillant avec lui de voir un dessinateur qui n'avait pas peur de ses planches, qui n'avait pas peur de l'ancrage, qui n'avait pas peur de recommencer une case si elle était finie, si elle était ratée. Parce que voilà, le crayonné était trop sommaire, mais qu'il s'était lancé dans l'ancrage un peu rapidement, quitte à dire bon bah là, je me suis planté, il faut que je recommence. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc, j'ai un peu dévié du sujet initial, mais
pour adapter, c'était passer du classique au baroque, en fait.
Ouais, d'une certaine manière. Mais pour moi, c'était vraiment, y avait vraiment une cohérence en fait, justement entre le roman d'Alain, ses thèmes, ses sujets principaux, et moi, mes envies et mon trajet personnel, en fait.
Et sur le premier contact, la première rencontre, tu as eu le sentiment qu'il avait du mal à se projeter dans un dessin dont il ne devait pas, a priori, connaître l'ensemble de ton trait, de tes envies, ou qu'il avait au contraire une idée plus précise, déjà peut-être préconçue, visuelle, mentale, et qu'il attendait de rencontrer cette image-là pour lancer le projet. Il a fallu que tu le convainques de se projeter ou le convainques de te faire confiance plus sur le trait?
En fait, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, quand j'ai commencé à faire des croquis. Parce qu'il y avait un projet d'adaptation de La Horde du Contrevent en film d'animation aussi, par un studio qui s'appelait Forge Animation. Voilà, le projet n'a pas vu le jour, mais il y avait ce projet-là. Et en fait, un jour, Alain est revenu vers moi en me disant je vais rencontrer les gens de Forge Animation, donc si tu as envie de faire des croquis, c'est maintenant, je leur montrerai. Je me dis, bon, super, il revient vers moi, donc déjà, c'était un super bon signe. Et je me suis dit, bon, là, c'est le moment. Donc j'ai passé vraiment 15 jours à me plonger dans l'univers et essayer de faire des croquis. Voilà, et il les a montrés à l'équipe qui les a bien aimés. Et puis après, je pense que voilà, ça a été un processus assez long, en fait. Moi, je comprends l'auteur aussi, hein, en même temps, de se dire, bon, qui... Enfin, c'est ce qu'il dit un peu dans la préface. Il fait une très belle préface, beaucoup de chance. Et il dit, bon, qui j'ai en face de moi, en fait? C'est un mec qui se rend pas compte de ce qu'il veut faire, ou est-ce qu'il est sérieux, quoi? Donc, je pense que ça a simplement pris du temps.
Il y avait besoin d'une vraie rencontre.
Ouais, vraiment.
Quand on vend ses droits au cinéma, on sait quelque part qu'on n'aura pas le droit à la parole parce qu'il y a des enjeux financiers délirants. C'est vrai que quand on le vend à un auteur, enfin quand on les cède à un auteur de bande dessinée, on sait qu'a priori on est dans la proximité et qu'on peut espérer avoir une adaptation idéale par rapport à la vision qu'on pourrait avoir de son livre. Quoi.
Nous sur Elric, on a une histoire complètement différente en fait parce qu'on n'a pas rencontré Michael avant ni pour faire Elric. Il y a eu énormément de choses autour de personnages d'Elric ou de différentes sagas de Michael Moorcock. Et il a toujours eu cette attitude de ne pas interférer dans le processus. Il a été éditeur, il a travaillé avec de nombreux auteurs, écrivains, illustrateurs. Il y a eu des centaines de représentations graphiques de son Elric. Il y a eu des adaptations en comics, il y a eu des adaptations en jeu de rôle, il y a eu de nombreuses propositions de scénarios pour des adaptations en cinéma. Et il ne se mêle pas du processus créatif en fait, il ne demande pas à valider, il regarde ce que les éditeurs, les auteurs proposent comme projet, il va dire ok, et ensuite il va accueillir l'œuvre, l'adaptation. Pour nous c'était la bande dessinée, et là il va donner son avis, il va le lire en tant que lecteur en fait. C'est à la fois très confortable parce que tu dois pas, personne ne vient interférer dans ta lecture qui est déjà assez stressante entre guillemets comme ça, tu fais des choix donc t'as pas forcément la liberté d'esprit d'aller comparer tes choix avec l'auteur. S'il est encore là, ça va dévier ton angle d'origine. Et en même temps, tu as aussi cette pression d'avoir son avis cash après coup, qui va être assez entier, quoi, qui va être merci, bisous, une autre adaptation ratée, ou j'ai bien aimé ça. Nous, on a la chance qu'il ait apprécié le travail d'adaptation, notamment graphique, sur Elric. On a des camarades au dessin qui ont fait un boulot que je trouve vraiment formidable. Mais on n'a pas travaillé avec, il n'a pas demandé à travailler avec nous. Il s'est positionné en lecteur et on est ravis que sa lecture lui ait plu.
C'est à l'anglo-saxonne, il y a l'idée de licence qui est souvent là derrière. Ils acceptent que les produits soient licenciés quelque part, sortent complètement de leur contrôle.
Oui, c'est vrai, et en plus il le dit de façon assez... pas désabusé, mais très, très anglo-saxonne aussi. Il s'est tellement fait piller sans qu'on lui demande l'autorisation sur Elric que pour une fois qu'on lui demande, il a décidé de ne pas faire chier en plus. Quoi. Donc,
oui, moi j'ai encore plus de chance, si j'ose dire. C'est que j'ai adapté des auteurs morts donc qui n'ont pas eu leur mot à dire sur l'adaptation. Bon, évidemment, quand j'ai fait le dernier Troyen sur Virgile, j'étais sûre de ne pas avoir de retour de Virgile, mais bon, je me place quand même dans une tradition antique qui est que les mythes n'ont pas qu'une version, mais ont finalement été déjà beaucoup racontés par beaucoup d'auteurs différents, et finalement ma version à moi n'est qu'une version en plus, donc je pense pas que ça aurait, enfin, je connais pas Virgile, mais je pense pas que ça lui aurait posé de problème que quelqu'un reprenne les mêmes thématiques que lui pour en faire autre chose. Pour Stéphane Vull, en fait, c'est son fils qui a donné son accord à la collection d'adaptation des romans de son père, dont Rayon pour Sidar fait partie. Et il a été enchanté des albums après coup, mais c'est vrai que j'ai pas eu du tout de rapport avec lui pendant la réalisation, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il était très content que ce soit adapté en BD, visiblement, mais il a pas du tout suivi au jour le jour ce que faisaient les auteurs. Enfin, pas moi en tout cas. Bon.
Question qui vous concerne peu.
Je suis encore vivant.
Hein. À la limite, j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas qu'au final, l'auteur de l'œuvre originale est le moins bien placé pour donner son avis sur une adaptation sur un autre support?
C'est une question avec laquelle ils seraient tous en désaccord, je pense. Parce que je pense que c'est un peu leur bébé et qu'ils n'arriveront jamais à s'en détacher totalement, enfin, j'imagine.
Du point de vue de l'artiste qui va, lui, faire l'adaptation.
Du point de vue de... mon avis personnel, c'est qu'effectivement, l'auteur original n'a pas à s'en mêler. Oui, parce que quand je l'adapte, ça devient mon œuvre à moi, en quelque sorte.
Mais le plus intéressant, c'est quand même de se réapproprier les œuvres et de trouver son angle, donc... Il y a une espèce de pacte faustien, tu laisses quelqu'un adapter, mais tu sais très bien que s'il ne se réapproprie pas le truc, s'il ne trouve pas son angle personnel à lui, ça n'aura globalement pas d'intérêt.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est la question d'après, en fait. Est-ce que adapter, c'est tromper?
Ah, ça, c'est la grande question. On demande souvent si adapter, c'est tromper ou si c'est trahir, en fait. Moi, je pense qu'on trahit quand on fait une promesse. Si on ne fait pas de promesse, il n'y a pas de trahison. On va pouvoir décevoir des gens qui ont des attentes, des lecteurs, l'auteur s'il avait une représentation personnelle de ses personnages, de son univers, ou s'il est déçu parce qu'il espérait plus, ou que ça lui plaît pas, ou qu'il s'y retrouve pas. Mais on trahit quand on promet, quand on fait... Enfin, ça a été dit, c'est ça qui est important, je pense. C'est un travail d'adaptation, c'est un travail d'auteur, c'est un travail de création, quoi. On part d'un matériau, mais ce qu'on va en faire, c'est une démarche d'auteur. Et on trahit pas par une démarche d'auteur, en fait. On peut surprendre, on peut dérouter, on peut provoquer créer des regrets, des gens qui vont dire « Ah, j'aurais bien vu ça autrement » ou « J'aurais aimé qu'on passe plus de temps avec tel personnage ou dans tel endroit » ou « Telle thématique qui m'avait touché moi, elle est un peu absente de l'adaptation. » Mais on trahit pas, on change ou on propose autre chose qui va plaire ou pas plaire. Mais ça devient une autre œuvre, en fait. Il y a de l'attente et c'est là-dessus qu'on va avoir de la déception, mais il n'y a pas de promesse sur une adaptation.
Oui, je suis assez d'accord. Moi, je sais que j'ai beaucoup modifié les œuvres que j'ai adaptées. L'Énéide en SF, on n'en parle même pas. Mais Rayon pour Sidar, j'ai changé les relations entre les personnages. J'ai changé la fin aussi. J'ai fait pas mal. Enfin, c'est devenu vraiment mon histoire à moi au fil du temps. Et c'est vrai que je crois qu'on peut aller jusqu'à employer le mot trahison, mais de manière positive, quoi. C'est-à-dire que Dumas disait de l'histoire qu'on peut, que les romanciers peuvent la trahir s'ils lui font de beaux enfants. Bon, c'est peut-être pas des choses à dire en ce moment, mais l'idée, c'est que finalement, c'est le résultat qui compte, quoi. Si l'œuvre qu'on produit est intéressante, on peut trahir l'auteur d'origine, finalement.
Surtout qu'il parle de viol, il ne parle pas tellement de trahison.
Ouais, moi j'ai trouvé ta question hyper intéressante sur le fait de savoir si l'auteur était vraiment le meilleur lecteur pour faire des retours. Moi, c'est une question avec laquelle je me suis beaucoup confronté avec Alain, qui était à la fois... À distance, mais quand il était là, il était vraiment là, quoi. Enfin, il y avait un truc assez, enfin voilà, assez puissant en fait. Et effectivement, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de trouver la bonne distance, en fait, le bon rapport justement avec l'auteur et même Alain Damasio lui-même avec moi, il cherchait lui aussi la bonne distance. Parce qu'il avait tout à fait conscience que quand il me dit un truc sur une version de mon script, par exemple, comme il est l'auteur, forcément, je vais être extrêmement attentif à ce qu'il me dit. Et en même temps, moi, il faut que je fasse mes propres choix. Parce qu'évidemment, l'œuvre que je suis en train de faire, alors, je ne sais pas si c'est mon œuvre, la question de l'appropriation. Moi, je viens quand même. J'aurais du mal à dire que c'est mon œuvre vraiment, parce qu'il y a quand même une œuvre au départ qui initie quelque chose et qui n'est pas juste une petite graine, enfin, qui est quand même vraiment quelque chose de très important et qui existe de fait. Mais oui, cette question de la distance avec l'auteur qui, pour le coup, est vivant cette fois-ci, est une question vraiment complexe en fait. Et dans les retours qu'Alain me faisait, effectivement, il y a des moments. Il me disait non, mais ça va pas, Golgoth il parle pas comme ça, etc. À ce moment-là de l'histoire, il peut pas être comme ça. Puis moi je disais bah si. Puis d'ailleurs, dans le roman, t'as fait comme ça. Il me dit ouais, mais dans le roman, de toute façon, j'ai fait des conneries. Bon, bref, je dis bah oui, mais là ça devient compliqué. Si même quand je suis le roman, tu me dis que c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin bref. Et il m'a beaucoup poussé de lui-même à m'approprier les choses, quoi. Moi j'étais dans un truc vraiment beaucoup plus. Pas servile, mais disons que moi le roman il me plaisait déjà tellement comme il était, j'avais juste envie de suivre le fil et puis de me replonger dedans et de le mettre en image. Et c'est vraiment lui qui m'a poussé, il m'a dit non mais c'est pas ça une adaptation, faut que tu t'appropries la matière, faut que tu la remodèles, etc. Enfin voilà, là pour le coup c'était vraiment super précieux, quoi. Alors, très très déstabilisant par moment, mais à d'autres moments, oui, j'ai dû dire, bah non, écoute Alain, là, ce que tu me dis, je veux pas l'écouter, je vais faire mon truc. Et voilà. Et à d'autres moments, bah oui, il avait raison. Donc,
ouais. C'est marrant parce qu'on a quand même de Valérie qui va aller adapter des auteurs morts, des mythes, des éléments d'histoire, des fois dont l'auteur n'est pas forcément connu, où on va aller piocher sans forcément se poser la question de ce que l'auteur en aurait pensé, à des auteurs extrêmement vivant, on va dire, et très très oui. Présent, ça change le respect qu'on se doit à l'œuvre, juste par rapport à la présence ou la proximité de l'auteur. Quand tu vas te lancer dans une lecture d'un roman, et que tu es lecteur, l'auteur ne vient pas te guider pour te dire qu'il faut lire de cette façon.
Ouais,
et quand tu fais une relecture, c'est jamais qu'une deuxième lecture, en fait. Et on se permet des... On se sent en liberté. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur Gilgamesh, modestement. Je n'ai pas du tout ton parcours et ta culture en histoire, mais j'étais touché par le mythe, par le personnage. Et à aucun moment, on se pose la question du respect de l'œuvre originelle. On se pose la question de l'angle, ce qu'on va prendre pour rentrer dans le monde. Alors que quand on a un roman contemporain, d'un auteur contemporain, on se pose forcément la question de l'auteur, alors qu'on ne se la pose pas sur d'autres adaptations, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, à un moment donné, encore une fois, Alain Damasio était présent, mais de façon assez épisodique, comme ça. À un moment donné, il avait les 30 premières pages ancrées, dialoguées, avec le reste, il avait tout le storyboard, etc. Et il a mis pas mal de temps à le lire, en fait, parce que pour lui, c'était assez difficile. Et je pense qu'il avait peur aussi de voir ce qu'il allait découvrir. Et du coup, on a eu quelques échanges de mails, en fait, pendant ce temps-là, où moi, je savais qu'il avait la BD dans les mains, mais qu'il ne la lisait pas. Et où, forcément, moi, ça travaillait, en fait. Je me disais, bah oui, évidemment que j'ai envie qu'il aime, que ça lui plaise, bien évidemment. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, là, je pense qu'il est très probable que ça ne te plaise pas. Je pense même que ça soit, qu'il est beaucoup plus probable que ça ne te plaise pas que ça te plaise. Et sache que si ça te plaît pas, bah tant pis, je vais quand même continuer parce que je le fais pas pour toi, en fait. Voilà. Et il m'a dit, bah oui, t'as raison, c'est pas pour moi que tu fais l'adaptation. Mais bon, voilà, j'ai quelqu'un d'extrêmement extrêmement intelligent, extrêmement fin en face de moi, et ce qui est, pour moi, est vraiment très très précieux, en tout cas.
On va plonger un peu dans la technique. L'art du roman et l'art de la bande dessinée sont très différents, même si c'est deux arts de la lecture. Là, dans une adaptation, a priori, on a le passage de la description dans l'image, on a le narrateur qui peut être très présent en littérature, qui devient souvent une narration neutre en bande dessinée. Des tonnes de changements comme ça. On a des acteurs qui se mettent à jouer avec des visages. Et en plus, on a sans doute souvent des scènes ou des décors qui, en fait, décrits ou racontés fonctionnent en roman et ne sont absolument pas adaptables en bande dessinée. Et c'est un problème qu'un dessinateur et un scénariste peuvent connaître entre eux éventuellement au moment où le scénariste écrit quelque chose et le dessinateur se retrouve face à une impossibilité de le transcrire en bande dessinée ou en image. Voilà. Si vous pouvez un petit peu raconter par exemple un moment où vous avez bloqué dans l'adaptation, quelque chose qui vous a retenu et qui vous a montré à quel point la bande dessinée était différente du roman.
Bon, moi, je n'ai pas bloqué du tout. Moi, ça s'est bien passé.
Oui, j'ai peu connu ça aussi, paradoxalement. Si toi tu as bloqué à des moments.
C'est hyper intéressant, c'est tellement vaste. Au final, je pense qu'on va tous se mettre d'accord sur les particularités de la bande dessinée en tant que format. On doit travailler sur un format. Et les questions qu'on va se poser quand on est en création ou quand on est en adaptation, ce sera globalement les mêmes. À la base, ça va être comment on raconte, comment on retranscrit, qu'est-ce qu'on montre. Quel rythme on donne, où on met le curseur de l'émotion, de l'information, de l'action, comment on remplit ou comment on exploite son format très, très codifié, très figé, de double page en vis-à-vis, d'albums de 40, 50 ou 100 pages pour des livres plus épais, comment on sert du média BD pour raconter une histoire. Et quand on adapte une autre histoire, à plus forte raison si elle est écrite et est précise, on va avoir des choix à faire sur qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, dans quel ordre on les met pour que notre nouvelle histoire, notre nouvelle narration par le scénario, par le dessin soit cohérente, même si elle ne suit pas fidèlement l'œuvre. Et après, chaque œuvre va avoir ses grands défis. Là, voilà, on a des pages de l'ordre du contrevent. Tu parlais du défi de l'ouverture ou de l'espace, de l'absence de frontières ou de limites. On est dans un format avec des pages, des cases et des traits. Et ton vent, on le sent, quoi. Enfin, voilà, on sent l'air, on sent le vent. Et c'était sans doute un des gros défis, à part l'écriture très, très chaotique, très poétique, très expérimentale. Il y a ce défi de l'air, du vent. Comment tu ressens le vent en bande dessinée, quoi. Chaque œuvre va avoir son ou ses gros défis de retranscription. Ça va être des fois en roman de la voix off au kilomètre qui serait fastidieuse, hyper chiante à lire en BD, ou des romans où il y a des descriptions de décors, de monstres. Enfin, je pense au Grinch sur Hyperion. Enfin, on a vraiment des trucs, des entités, des personnages tellement forts décrits en trois lignes que les figer par le dessin ou les décrire, c'est un défi en soi, quoi. Donc ça va varier selon les œuvres, mais je pense que graphiquement, il y a plus d'enjeux et de difficultés qu'au niveau du scénario où on est plus dans la technique ou dans les choix personnels de narration. Les gros défis, ils sont dans l'objet dessiné, dans le travail de dessin, non ?
Alors, moi, effectivement, bah, du coup, j'ai fait les deux, donc j'ai pu me confronter aux deux problèmes. Effectivement, en termes d'écriture, l'art du contrevent, c'est une polyphonie. C'est d'ailleurs, ça rend la lecture parfois un peu complexe. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a, en gros, chaque personnage de la Horde raconte l'histoire à tour de rôle, et il y a des petits sigles en face de chaque chapitre qui correspondent à un personnage en fait qui est en train de parler. Et on a accès à la fois à l'intériorité du personnage, de ce qu'il ressent, de ce qu'il est en train de vivre, et des dialogues en même temps. D'ailleurs, par moments, on ne sait pas vraiment qui parle à qui, on le devine. Et donc, bah, ça déjà, moi, en bande dessinée, je ne me suis pas orienté vers ça. Voilà, j'ai choisi un personnage au sein de la Horde qui est devenu mon personnage principal, qui est le personnage du narrateur. Et ce simple choix, en fait, a fait que ça a modifié considérablement l'écriture. Parce que j'ai dû redramatiser toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est toujours l'histoire de la Horde qui est en quête de l'extrême amont. Mais au sein de cette Horde, je raconte l'histoire de Sov et de son... de son histoire à lui, en fait, qui va être une longue, une longue quête, sa quête à lui de l'extrême amont, qui est, sa problématique, c'est le lien et la solitude, c'est comment il va s'affronter, comment il va affronter la solitude, quoi. Donc, du coup, ça, en termes d'écriture, ça suppose une redramatisation et de créer un arc dramatique, sur l'ensemble des albums pour l'évolution de ce personnage que j'ai choisi. Et ensuite, graphiquement, dans la Horde, on a beaucoup d'impressions, beaucoup de sensations. On a l'impression qu'on voit des choses. Et puis, quand j'ai relu le bouquin en cherchant des descriptions, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et quand je posais la question à Alain, je dis « Mais alors, le vaisseau Fréol, il ressemble à quoi ?» Il me dit « J'en sais rien. Je sais pas, quoi. » Je dis « Moi, je le verrai comme ça. » Et tout. Il me dit « Si tu veux, essaye, quoi. » Et effectivement, et là, c'était à la fois... un peu déroutant et en même temps extrêmement excitant, c'est-à-dire que à la fois on a une image, on a l'impression d'avoir une image, en tout cas on a des sensations très précises, mais on n'a pas d'image en fait, et il faut les créer, ces images. Alain, dans la préface, il dit qu'il ne sait pas d'ailleurs lui-même comment il voyait ces personnages, quelle tête ils avaient, mais en fait moi non plus, quand je lisais le roman, je ne savais pas quelle tête ils avaient, et c'est vraiment en dessinant que les choses viennent et apparaissent en fait, petit à petit, on s'oriente, on fait des erreurs, il y a des endroits où je dis là c'est carrément une impasse, il faut que je fasse demi-tour, je vais chercher ailleurs, etc. Et voilà.
Je crois que de mon côté, le plus gros défi en matière d'adaptation, c'était peut-être au niveau du scénario, celui de la modernisation. Parce que c'est vrai que le roman de vue, il a une structure assez linéaire, il est assez court, il est assez simple finalement. Donc le reprendre l'histoire, le synopsis, c'était pas très compliqué. Mais c'est vrai que c'est un roman qui datait des années 50 avec des thèmes de cette époque-là et des idées de cette époque-là. Avec, par exemple, une vision assez paternaliste des extraterrestres. Et, en fait, l'histoire, pour aller très vite, c'est un héros terrien qui s'appelle Lorin, qui, avec son robot Lionel, va venir sauver une planète extraterrestre de l'invasion d'autres méchants extraterrestres. Et les méchants extraterrestres étaient un peu des Chinois communistes, et les gentils extraterrestres étaient un peu des tribus qu'on pouvait en trouver en Afrique, mais avec une vision très paternaliste des choses. Avec le gentil européen qui vient leur apporter la civilisation et donc les défendre contre les méchants. C'est sans doute quelque chose qui était très commun quand Vu l'a écrit, mais bon, qui ne représente pas du tout ma propre vision, ni de l'Afrique, ni des extraterrestres. Donc il a fallu un peu moderniser tout ça. Donc évidemment, ça a fini par amener pas mal de changements. Il y a le rapport aussi du héros Lorin avec son robot, donc Lionel, qui, pour être un robot, a une conscience, et des idées indépendantes, etc., mais qui n'en reste pas moins dans le roman un être mécanique à qui on peut faire subir tout et n'importe quoi. C'est vraiment l'esclave de son maître qui peut le découper, le tuer, même à volonté, sans que ça pose aucun problème moral, quoi. Et c'est vrai que pour moi, posséder un être comme ça, doué de conscience, à qui on peut faire n'importe quoi, c'était un vrai problème. Donc mon principal défi, c'était quand même de redonner un peu changer les rapports entre les deux personnages, et finalement d'aider ce robot à se libérer de sa condition servile, en quelque sorte, quoi.
Et à la fin, si je me souviens bien, il libère finalement les colonisés.
Tout à fait, oui. C'est là. J'ai changé la fin du roman. Du roman, tout le monde se libère à la fin, oui.
Pour le coup, par rapport à si je reviens sur la difficulté d'adapter le scénario de Thomas, la forme même du récit qui repose sur la voix off m'a permis vraiment d'avoir une liberté totale sur le choix de ce que je voulais représenter. Puisqu'en fait, Thomas n'a fait que rédiger les textes de ces cartouches de voix off ainsi que les dialogues. Alors que souvent en bande dessinée, on va avoir des indications de la part du scénariste. Alors, case 1, il se passe telle chose, case 2, telle chose. Là, pour le coup, j'avais vraiment que le texte qui figure voilà, comme ça dans ces cartouches-là. Et le choix de la mise en scène, de ce que je voulais représenter. Ce que je voulais raconter était vraiment m'échouer totalement. Donc, j'ai eu une liberté totale. Donc, la difficulté, c'était de gérer cette liberté pour raconter quelque chose de pertinent, qui ne soit pas forcément redondant avec le texte. Mais pour le coup, ça m'a permis une ouverture totale et vraiment une amplitude qui, à mon avis, d'après ce que j'ai cru entendre, n'était pas forcément le cas dans tous les albums qui sortent actuellement, enfin, en tout cas en bande dessinée. Quoi.
Est-ce que le scénario était plutôt romanesque dans ce cas-là, on pourrait dire ?
Je trouve que c'est un scénario très littéraire parce que donc c'est une jeune femme qui parle, qui a 17 ans. Donc déjà, c'est sa voix, elle a un ton, une tonalité à elle. Il y a très peu de dialogue dans la BD, ce qui a surpris certains lecteurs qui sont habitués aux comics. Et moi, je me suis ancré dans cette voix, j'avais envie de trouver cette voix, j'avais envie d'écouter cette voix. Et j'imaginais cette BD comme quelqu'un qui me parle, qui me raconte son histoire. Alors c'est le principe même de l'album, c'est-à-dire que quand elle raconte l'histoire, quand elle démarre l'histoire, l'histoire est finie. Donc elle raconte ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu, dans quel ordre elle l'a vécu, des fois en mélangeant un petit peu les souvenirs, des fois en revenant un peu en arrière, en allant un peu en avant, etc. etc. Et c'était intéressant parce que je sortais de Wicca avec Olivier Ledroit, où là, on est dans C1, Wicca fait ceci, C2, Wicca dit ça, il se tape sur la gueule, il y a des bulles, enfoiré, etc., etc. Il aime bien le juron, le droit. C'était pas pareil, ça permettait de faire autre chose. Moi, souvent, les illustrateurs avec qui je travaille, ce sont des gens qui découpent tellement bien, qui sont tellement forts sur le découpage, que je leur dis, bon, et si vous voulez des suggestions, je les fais, mais globalement, vous êtes meilleurs que moi. Discutons-en. Donc souvent, ils m'envoient du storyboard. Et c'est sur storyboard que je dis des fois, bon là, il y a trop de bulles, là, il n'y a pas assez de bulles, là, il faut peut-être un peu faire une case en plus ou peut-être faire plutôt des cases horizontales. Mais j'essaye d'intervenir le moins possible. Et j'essaye toujours de me mettre au service de ce qu'il veut faire. Donc c'est vrai que quand on a commencé à parler de cet album avec Aurélien, il m'avait dit... Dave McKean, Ben Templeton-Smith, Ashley Wood. Donc on passe sur un vendeur en ligne bien connu. On achète du Ben Templeton-Smith, du Dave McKean, du Ashley Wood. On regarde, déjà il n'y a pas de cases, ou il y en a très peu, où elles sont explosées, où elles ne sont pas tout à fait là où on devrait les mettre. Donc c'était pas possible de faire C1, il se passe ça, C2, il se passe ça, C3, il se passe ça. Et en plus Aurélien, il aime bien... quand il n'y a qu'une seule page, quand il y a une seule case dans la page et puis qu'il se passe plein de trucs différents, il n'y a pas forcément les traits, c'est un peu noyé ouvert. Et ça allait très bien avec le sujet de la bande dessinée qui est globalement, alors pour ceux qui ne savent pas de quoi ça raconte, ça parle c'est une espèce d'apocalypse, mais soft, c'est une espèce d'apocalypse mélancolique, c'est complètement l'opposé de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, il y a des cannibales, c'est Mad Max, c'est la route, c'est affreux, tout est détruit. Et ben là, non. Ils se baladent en camping-car à travers les États-Unis et ils essayent de comprendre ce qui se passe, mais c'est assez bradburien, c'est assez automnal, mélancolique. Elle a des réflexions sur la vie, l'univers, le reste, sa famille qu'elle a laissée derrière elle, etc. C'était ça qui me plaisait, c'était ce truc qu'on voit jamais en BD, très peu. Globalement, le comics, c'est des super-héroïnes, des super-héros, ils sont toujours dans la volonté de vaincre, dans la volonté de se dépasser, de se surpasser. Et là, c'est une fille ordinaire qui juste a envie de
comprendre, de voir ce qui se passe, d'éviter le pire, si c'est possible, et que c'est quelqu'un, entre guillemets, de normal, même si elle a un don fantastique qui, lui, est anormal.
Je rebondis juste par rapport à ça, c'est assez flagrant dans ce que tu disais. On constate que le travail de bande dessinée, c'est déjà un travail d'adaptation du scénario, même dans le cadre d'une collaboration à deux, en fait. Tu prends l'exemple d'un scénariste qui va proposer un scénario et d'un dessinateur ou d'un tandem dessinateur-scénariste qui vont ensemble en faire un storyboard pour raconter le scénario. Il y a déjà un travail d'adaptation avec les mêmes choix qu'on se fait, en fait, quand on décide de mettre l'accent sur telle case, d'introduire de telle façon, de donner tel rythme sur la lecture, de gérer des informations en off ou en arrière-plan, ou de montrer une case qui va montrer quelque chose et une bulle qui dit autre chose pour créer des transitions, etc. La BD, c'est déjà un média d'adaptation par la collaboration sur le storyboard, en fait.
Et par son hybridité, c'est un média très hybride. Donc,
Et d'ailleurs, il y a une espèce de mensonge absolu, c'est qu'on met toujours dessinateur un tel et scénariste un tel. Quelque part, Aurélien, il est co-scénariste de la BD. Hein. Il y a plein de moments où il est intervenu dans la narration, la façon dont on raconte, la façon dont on monte les choses, la façon dont on va... C'est un peu monté comme un film, hein. Il y a contre-champ, les visages qui s'alternent, etc. C'est pas du cinéma, mais il y a quand même des liens très forts, surtout sur ce type de comics, avec la façon dont on pourrait monter un film. Là, je vois presque le film quand je lis la BD.
Donc finalement, vous étiez bienvenu à cette table. Le thème de cette année, c'est le temps. Alors, pour ceux qui ont adapté un roman, mais pour ceux qui écrivent aussi des romans à côté, est-ce que le temps s'écoule de manière très différente en bande dessinée et dans le romanesque ?
Oui.
Merci.
Voilà. Non, ce qui est frappant quand on lit une BD ou un roman, c'est déjà la vitesse de lecture, le temps qu'on passe à lire des pages et le temps qu'on passe à lire des planches de BD et sur lesquelles on revient pour reprendre des détails. On a un rapport au temps de lecture déjà qui est différent. On a forcément un rapport au temps dans l'écriture qui va être différent. La gestion du rythme sur un roman va se manifester de façon complètement différente sur une gestion de rythme en bande dessinée, parce qu'on doit la gérer par le découpage, par le volume d'informations écrites. Par exemple, cette planche-là d'Elric, c'est une image, c'est une porte, quoi. Il se trouve qu'elle est très jolie, mais on n'y resterait pas 3 heures s'il n'y avait pas du texte. La notion de temps, on commence déjà, à mon avis, à la gérer par le temps de lecture ou par le rythme de lecture. Alors, je parle de ces pages, mais je ne sais pas si on la voit derrière. Oui, on la voit derrière, super. Et ensuite, on a forcément un rapport au temps de compression. Si on décide de raconter, là, par exemple, on raconte 10 000 ans d'histoire sur une double page, et on pourrait la raconter en une seule case, juste en disant à cette époque-là, vivaient les dragons. Point. Et on peut aussi passer 12 pages, 20 pages. Je ne prends pas l'exemple du manga ou de la blague de combien de tomes il faut pour changer une ampoule en manga, mais on peut passer des pages, voire des tomes, juste sur une arène dans Dragon Ball à attendre qu'ils commencent à se battre pour le grand tournoi. Donc on a un rapport élastique au temps dans la narration de bande dessinée qui, à mon avis, est différent de l'écriture de roman. Je ne suis pas un auteur de roman, je ne suis pas un spécialiste, mais on doit gérer aussi la représentation du temps par l'objet bande dessinée et par la case et par le découpage.
Si je pouvais obliger les écrivains débutants à faire quelque chose, je les obligerais à écrire un scénario de bande dessinée. Parce que le scénario de bande dessinée, c'est l'art absolu de la concision. C'est le maximum d'informations en le minimum de mots, et donc avec l'image, évidemment, qui vient épauler ça. La bande dessinée, évidemment, souvent, c'est... Bon, là, juste un peu de sens, c'est très particulier parce qu'il y a cette voix off, mais souvent, c'est des dialogues et des images. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'images, assez peu de cartouches. C'est à peu près ça dans la bande dessinée moderne, à peu près partout. Et donc, ça oblige à faire quand même des dialogues qui sont très courts. On ne peut pas passer 4 planches à discuter de « est-ce que tu as acheté le pain ce matin ?» C'est pas possible. En BD, ce n'est pas faisable. Donc, c'est vraiment l'art de la concision. Et alors moi, en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur de livres, ce que je trouve de plus en plus difficile avec les livres, c'est qu'ils sont globalement trop gros. On peut enlever la moitié des mots, la moitié des phrases, ça ne change rien à l'histoire, ça ne change rien au personnage, ça ne change rien à ce qui a été dit. Il y a beaucoup de bruit, il y a très peu de signal. La BD, c'est le signal. Et il y a assez peu de bruit, voire pas du tout.
Oui, on peut juste se poser la question pour le roman graphique, justement. Donc ces BD qui font parfois plusieurs centaines de pages et qui se veulent plus littéraires, justement, que les albums de 48 pages classiques, où effectivement, là, on retombe sur des procédés qui sont presque beaucoup plus romanesques. On retrouve beaucoup de cartouches comme ça, beaucoup de descriptions qui viennent un peu se surajouter aux images, et où parfois, les scènes, tu disais combien il faut de pages pour aller acheter le pain. Bah, parfois, dans les romans graphiques, il faut plusieurs dizaines de pages pour aller acheter le pain. Ça peut être très bien, ça peut être très bien mis en scène et très bien raconté par ailleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme de BD qui revient à des procédés quand même qui sont beaucoup plus romanesques, qui abandonnent un peu cette concision justement qui faisait le propre de la BD traditionnelle.
Et là où parfois on pouvait rester sur sa fin avec le 48 pages couleur, maintenant on a parfois un peu gavé quand même dans certains romans graphiques où les auteurs, à force d'avoir toutes les pages qu'ils veulent, finissent par oublier cet art de la concision, même romanesque, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut, créer de la lenteur avec peu de pages. On peut réussir à créer une scène très calme, très lente, où on la sentirait facilement sur un film, par exemple, parce qu'on a d'autres artifices, d'autres outils pour créer du rythme, de la lenteur, de la surprise, de la contemplation, de la réflexion. On peut, en BD, même dans un 46 pages, dans un format 50, créer des scènes qui ont l'air extrêmement lentes alors qu'elles durent qu'une page ou deux, parce qu'on on ralentit la voiture, on pose le rythme, on va chercher d'autres cadrages, on a quand même accès à une gestion de l'écoulement du temps, du ressenti du temps en bande dessinée, qui n'a rien à envier au cinéma sur des... Enfin, je sais que tu es fan de 2001, par exemple, des ellipses sur des millénaires de civilisation. On peut aussi les avoir en bande dessinée par cette intelligence de discussion entre ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter, en exploitant le média BD. Et même si je suis sûr que c'est fascinant de chercher une boulangerie pendant 20 pages, je pense que le voyage peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin de cette boulangerie et pourquoi on décide que ça prend 20 pages? Parce que qu'est-ce qu'on veut faire ressentir par ce volume de pages qu'on y accorde? Si c'est juste pour se faire plaisir et suivre son personnage, ok, c'est intéressant. Mais si le moment où cette séquence prend 20 pages dans un album a du sens, parce que juste après, il se passe un événement qui est brutal, qui est soudain, un attachement au personnage qui va bim, qui va mourir, là on est dans un rapport au temps de lecture et d'écriture qui est intéressant, je pense.
Oui, tu parlais de temps de lecture, c'est peut-être une des différences qu'on a aussi par rapport au cinéma et au roman, c'est qu'on est peut-être, enfin au roman, quoique, mais on est beaucoup plus dépendant de l'attitude du lecteur face à la bande dessinée, en fait. J'ai l'impression que dans un film, on commence au début, on le regarde jusqu'à la fin s'il nous a plu. La bande dessinée, on l'ouvre, on peut tourner les pages, aller en avant, en arrière. Le lecteur, finalement, n'est pas obligé de suivre, de lire comme ça en continu. Il peut beaucoup plus facilement décider de parcourir simplement une page, de passer à la suivante, sans lire les bulles ou en les lisant, d'avancer de 3 ou 4 pages pour voir ce qui se passe après, d'aller voir la fin très facilement, ou de revenir au début s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Finalement, c'est son adhésion volontaire, en fait, qui fait le temps de la bande dessinée aussi.
Et on sait même qu'il y a souvent une double lecture, parce qu'on a une première lecture qui est très rapide en général, où on lit quasiment que les textes parce qu'on veut connaître l'histoire, et puis cette autre lecture qu'on a pu faire avant en feuilletant et qu'on refera après en regardant les images, en relisant des bouts. C'est un art de la multiple lecture et des multiples temps, peut-être même.
Mais d'ailleurs, on relit très peu de livres dans sa vie, mais moi, je relis énormément de bandes dessinées. Tous les 2 ou 3 ans, je relis Watchmen ou des choses comme ça, parce que chaque fois, je découvre des trucs nouveaux, des trucs que j'ai oubliés, et que c'est extrêmement riche. Et ça ne viendrait pas à l'idée de relire tous les 3 ans des bouquins que j'adore pourtant, mais parce qu'il faut 7 heures, 8 heures pour les lire, et on n'a pas le temps.
Il y a une chose qui me semble assez spécifique sur ce thème-là, à la bande dessinée, c'est l'autonomie du lecteur et la découverte, la surprise. À mon avis, un des genres les plus difficiles à faire ou à adapter en bande dessinée, ça va être les romans d'horreur ou le côté horreur, le côté l'irruption de quelque chose qui fait peur. Il nous manque le son par rapport à du cinéma, il nous manque la précision ou la montée en puissance du roman sur l'installation de ce qui va faire peur. Et en bande dessinée, on a assez peu d'effets pour faire peur. On a « je tourne ma page, qu'est-ce que je découvre ?» Et le lecteur, il est autonome face à sa lecture de bande dessinée au cinéma. Il est spectateur. Si le metteur en scène décide que tel élément arrive à tel moment, T'as aucune prise dessus, tu vas te le prendre en pleine tête quand il faut. T'as un chat qui sort du placard, qui a piqué la baguette de la boulangère, hop, il te fait peur. En bande dessinée, si tu mets ta case qui fait peur en bas de page de droite, tu vas la voir tout de suite en ouvrant ta page, tu vas commencer à lire à gauche en sachant que t'as un monstre là en bas qui t'attend, et quand t'arrives sur ton monstre, bah, il te surprend pas, donc, parce que tu sais qu'il est là depuis le début. Et si tu feuillettes ton livre chez ton libraire, avant de le lire chez toi, tu vas te gâcher des surprises si elles ne sont pas intégrées dans des endroits. Donc le rapport à la découverte, au mystère ou à ce qui va te surprendre ou te faire peur, il est difficile à mettre en place en bande dessinée parce que tu ne peux pas empêcher un lecteur de découvrir avant que tu lui fasses découvrir les choses. Et en adaptation, moi, j'ai jamais adapté de roman ou de film d'horreur. J'adorerais, pour me confronter à cette difficulté-là de comment créer un climat d'angoisse ou de peur et comment surprendre alors que tu peux pas l'empêcher de lire, quoi.
C'est vrai que dans ce cas-là, l'image est peut-être même parfois un handicap, puisque finalement, quand on lit Lovecraft, par exemple, l'indicible, chacun a son indicible à lui-même, quoi. Chacun l'imagine comme il le veut. Chacun se fait peur un peu selon ce qui l'effraie le plus. Une fois qu'on a dessiné l'indicible, ben finalement, ça a une forme. Ça a des tentacules, des bouches, ça bave, etc. etc. Après, ça fait plus ou moins peur. Ça fait en tout cas beaucoup moins peur que l'indicible qu'on imaginait chacun de son côté, quoi.
Il nous reste 5 petites minutes pour poser une ou deux questions. S'il y a des demandeurs. Ah, on a un doigt levé au premier rang. Notre gagnant.
Est-ce qu'il trouve cette baguette de pain en finale ?
Oui, bonjour. Merci pour cette petite conférence très intéressante. J'avais une question pour Eric Hénineau. Pour avoir lu votre adaptation des nouvelles de Jack London, de Fils du Soleil, j'aurais voulu savoir si vous avez été sur le même processus créatif entre cette adaptation de science-fiction et ces deux nouvelles plutôt maritimes, en fait.
Donc la différence essentielle, c'est que Jack London, il était mort, en effet. Ça change beaucoup de choses. Et blague à part, c'est pas moi qui ai fait le scénario de Fils du Soleil. C'était Fabien Nury qui s'est chargé de l'adaptation. Donc forcément, je ne me suis pas confronté du tout au même problème. Le scénario était déjà écrit. Et moi, mon travail, ça a été de rendre, de m'imprégner de l'ambiance des nouvelles et d'essayer de les rendre graphiquement. Donc je me suis vraiment concentré sur le travail graphique. Alors que sur La Horde du Contrevent, le fait d'écrire et de dessiner, ça change fondamentalement les choses, en fait.
Bonjour, j'avais une question en fait sur l'adaptation. Qu'est-ce que vous aviez trouvé le plus difficile, le plus ardu, ce qui vous a demandé le plus d'efforts dans cette adaptation d'une bande dessinée, d'un roman, d'un scénario Qu'est-ce qui a été quand vous scénarisez, qu'est-ce qui a été le plus difficile en fait pour vous c'est la plus grosse montagne à...
C'est bien cette question, ça revient à la question de Denis sur la problématique de est-ce qu'adapter c'est trahir. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de rester fidèle à ce que j'avais ressenti au moment où j'avais lu l'œuvre. L'adaptation de façon très mécanique, qu'est-ce qu'on adapte, comment, le côté technique, les choix qu'on fait, c'est une difficulté, c'est un travail. Mais au final, est-ce qu'on arrive à redonner la même émotion que celle qu'on avait ressentie en lisant l'œuvre et je pense que les choix qu'on fait doivent aller dans ce sens-là. S'il y a une promesse, c'est de ne pas trahir ce qu'on était en tant que lecteur et ce pourquoi on a eu envie d'adapter cette œuvre. Il faut qu'il y ait un attachement, il faut qu'il y ait un vrai coup de cœur, il faut qu'il y ait une passion pour l'œuvre. Qui te donne de l'élan, il ne faut pas la perdre. Et le plus dur, c'est de réussir à la retrouver sans se perdre dans des choix de fans, des choix d'anticipation des réactions des gens, des choix d'obligation de format. Ça me paraît important de mettre Stormbringer parce que c'est l'épée et machin. Non, Stormbringer, moi j'ai eu l'impression de l'avoir découverte tard et je trouvais que c'était bien que les gens l'attendent et quand elle arrive, elle te recrée cette émotion. Le personnage d'Elric, rapidement pour Elric, il m'a touché en tant qu'adolescent et je voulais qu'il garde ce côté touchant, écorché, rebelle. Et je pense que rester fidèle à son ressenti de lecteur, c'est le plus important et le plus difficile sur l'adaptation.
Une toute petite dernière. une question à laquelle on peut répondre par oui ou non.
Bonjour.
Non.
Merci. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter lorsqu'on réalise une adaptation ?
Peut-être que la fidélité absolue peut être un piège en elle-même, parce que finalement, ce qu'il faut aussi l'intérêt de l'adaptation, c'est ce que nous, on peut lui apporter. Et à vouloir être fidèle de manière forcenée à un auteur, bah, finalement, on passe un peu à côté de ce qui peut être la rencontre entre nous et cet auteur-là. Finalement, pourquoi adapter si c'est pour refaire, juste transposer d'un média à un autre ?
Il y a un problème d'époque. Souvent, les œuvres qu'on a envie d'adapter sont d'une autre époque, d'une autre décennie ou d'un autre siècle. Et les problématiques des auteurs ne sont plus nos problématiques. On adore l'œuvre, mais ça mérite très sur certains... Par exemple, la place de la femme dans certains romans classiques, etc. etc. On ne peut plus faire ça. C'est fini. Donc il faut trahir, c'est obligatoire. Et il faut bien avoir conscience que c'est des produits d'une époque et que nous, on va s'adresser à des lecteurs d'une autre époque.
Bien, on va terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup. C'était passionnant.
Avec plaisir.
Merci.